La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici à l'Oratoire du Louvre pour ce dimanche particulier dans la vie de notre paroisse, à plusieurs titres particuliers, parce que aujourd'hui nous allons avoir la chance de pouvoir partager la parole que nous apporte Marc Pernaud, qui a été pasteur ici et que beaucoup sans doute connaissent, et qui prêchera pour nous ce matin. Bienvenue Marc, ici dans ta maison. Et nous avons aussi la joie de célébrer un baptême, encore un baptême ce dimanche. On est très très gâtés en ce moment avec tous ces baptêmes. Et nous avons aussi eu un temps fort de notre Église qui est l'Assemblée Générale de cette association cultuelle qui est ici appelée Apérol. Alors ce n'est pas à cause de l'apéritif, mais ça n'empêche que nous aurons quand même un apéritif ensuite. Et donc restez nombreux pour la suite de cette Assemblée Générale, parce que nous avons préparé un pot de l'amitié pour que vous puissiez retrouver un petit moment Marc pendant qu'il est là avec nous, et puis faire connaissance aussi avec tout le conseil presbytéral, et bien sûr vous retrouver les uns les autres, et puis nous aurons une surprise aussi pour deux de nos conseillers. Voilà. Je vous invite à louer le Seigneur et je vous invite à vous lever. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je vous invite à chanter votre propre louange avec le psaume 36, les strophes 1, 2 et 3 dans les psautiers français. Je vous invite à vous asseoir et nous allons entrer tout de suite dans la liturgie du baptême de cette petite fille qui a traversé l'Atlantique pour venir nous voir, qui est venue de très loin aujourd'hui avec ses parents. Et je vais rappeler l'institution du baptême dans notre Église. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais inviter les parents de la petite baptisée à venir me rejoindre pour dire tous les deux la confession de foi. Si vous pouvez à la fois lire la confession de foi et garder votre fille avec vous, c'est parfait.
Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous croyons en sa communauté spirituelle et fraternelle, sans fondement d'intérêt. Nous croyons qu'elle est une force et une paix. Nous croyons en la grâce du monde dans laquelle il nous est donné la chance de vivre. Nous croyons qu'il veut que nous le découvrions. Nous croyons que pour autant, il n'attend rien de nous, mais qu'il nous tient pour responsables de sa conservation et de sa prospérité. Et que pour cela, nous devons faire de notre mieux durant le temps qui nous est imparti.
Nous croyons au péché originel qui produit toujours ses fruits de corruption et que les meilleurs des hommes, quoi qu'ils y résistent, ne sauraient éviter d'être entachés de faiblesses et de fautes tant qu'ils habitent ce monde. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous croyons qu'il a insufflé en l'homme l'espérance, une flamme faible mais inextinguible vers laquelle nous pouvons toujours nous tourner et que nous nous devons de raviver chaque fois que nous la rencontrons. Nous croyons au Saint-Esprit qui rend témoignage que nous portons en nous une étincelle dont le principe dépasse tous les aspects matériels de l'existence, un écho venant du passé et du futur qui nous pousse à bâtir et à nous réaliser.
Nous croyons à l'amour qui transcende l'espace, le temps et la mort et au royaume de Dieu où il réunit pour toujours ceux qui s'aiment.
Merci à vous. Restez avec moi. Je crois qu'on a une petite chose à faire ensemble. Alors, je vais vous inviter à vous lever pour être témoin de ce baptême. Quel prénom avez-vous choisi pour votre fille ?
Margot Rebecca Alix.
Margot va être... Ça va ? Tu te réveilles, grande fille ? Ah oui. Margot va être baptisée au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Elle va être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité aussi pour elle et qui va l'appeler à son service. Elle va être baptisée au nom du Saint-Esprit qui fera naître chaque jour en elle la foi, l'espérance et l'amour. C'est notre plus grand souhait. Il y a de l'eau ici dans ce baptistère qui est de l'eau tout à fait ordinaire. Mais avec les paroles que nous allons dire, cette eau devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils sont tout petits et qu'ils ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Je vais maintenant procéder à ce baptême, si vous voulez approcher. Margot, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Voilà. Voilà, si tu veux. Margot, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Alors, je crois que c'est la plus jeune de cette année, il me semble. Voilà. Voilà, 3 mois, la petite Margot qui est avec ses parents, qui ont été éclaireurs. Alors, monsieur plutôt, hein, c'est Paul, hein, qui a été éclaireur ici à l'oratoire. Et donc, nous avons la joie d'accueillir cette toute petite enfant. Est-ce que vous pensez qu'elle viendrait dans mes bras? Parce qu'évidemment, l'éloignement géographique a fait qu'on n'a pas pu se voir jusque-là. Et donc, voilà. Petite Margot, est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller. Alors, on y va. On y va. Voilà. Regarde, regarde. Alors, tu vois toutes les personnes qui sont là. Alors, Margot... Voilà ta famille spirituelle. Ils sont très nombreux aujourd'hui, regarde, ils te regardent toutes et tous avec beaucoup de bonheur parce que tu représentes l'avenir de cette parole que nous partageons tous et que nous aimons tellement entendre et méditer ensemble. Voilà Margot, vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez ainsi qu'à sa famille le soutien de votre prière. Si jamais un jour elle venait à se séparer de la communauté des chrétiens, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi les témoins de l'amour inconditionnel de Dieu pour elle. Voilà Margot. Et alors Margot, tu as 2 pasteurs aujourd'hui pour toi. Ah. Et alors, une troisième pasteur arrive après, c'est Agnès qui revient à Paris aujourd'hui et qui est à Saint-Eustache ce matin pour représenter l'oratoire à nouveau. Voilà. Ah. Oui, oui, allez-y, allez-y. Je vais être obligée de la rendre hein, quand même. Voilà. Voilà. Alors, je vous invite à chanter notre joie et notre reconnaissance et tous nos vœux pour ce baptême à la petite Margot, avec le cantique 204, les strophes 1 et 2, dans le louange et prière. Merci.
Vous pouvez prendre place. Alors un grand bonjour à chacune et à chacun. Quelle force de se rassembler pour célébrer Dieu ensemble et s'ouvrir à ses bons soins pour nous. Merci à Sarah Kim à la tribune, merci, grand merci à Aurore Saglio et Béatrice Clairaud-Mazir pour leur invitation. C'est vraiment une joie d'être parmi vous ce matin, avec en particulier cet événement qu'est l'inauguration de la restauration de la grande sacristie. Alors en fait, cette grande sacristie, après bien des difficultés pour les protestants de France, voilà tout d'un coup que la chapelle royale du Louvre l'aurait dévolue. Ils y ont vu la main de Dieu dans leur existence venant à leur secours. Et c'est pourtant avec un curieux verset de louange, de confession de foi, qu'ils honorent Dieu par un verset peint dans la sacristie que vous connaissez, que vous verrez peut-être, et qui dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Alors ce verset m'a toujours bien amusé parce que c'est pour le moins modeste et prudent comme confession de foi. Il y aurait eu quantité de versets plus affirmatifs, plus catégoriques pour dire notre confiance en Dieu. Mais c'est ce verset tout simple, teinté de doute finalement, qu'ils ont choisi. Alors ce verset est tiré du premier livre de Samuel, au chapitre 7. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel lui répondit. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et en ce jour, l'Éternel fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins. Il les mit en déroute et ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah. Ils poursuivirent les Philistins, les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne, et il appela ce lieu du nom de Eben-Ézer, pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Alors après ce passage, je voudrais vous lire un court extrait du testament spirituel de Jésus-Christ, juste quelques heures avant qu'il soit arrêté pour être exécuté malheureusement. C'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 17. Jésus dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, afin qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de vérité, ou de fidélité pour autant traduire. L'esprit de fidélité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors pourquoi une confession de foi aussi prudente? Qu'est-ce que ce choix traduit comme mode de vie, comme attitude dans la vie et comme geste de foi? Alors je dirais que le premier geste me semble être la lucidité dans la vie. Alors oui, il y a plein de bonnes choses dans notre vie, dans notre monde. Il y a plein de bonnes surprises qui nous arrivent comme par bénédiction. Cependant, le fait d'avoir la foi n'est certainement pas la garantie que notre vie ne sera qu'un chemin bordé de lys et puis pavé de pétales de roses sans épines. Non, la vie n'est pas comme ça. Si l'Éternel nous a déjà secourus à de nombreuses reprises, eh bien c'est qu'il y a eu besoin de nous sauver et donc qu'il y avait des moments difficiles dans le passé, qu'il y a peut-être des moments difficiles dans notre vie présente et qu'il y en aura encore dans la vie future. La vie est complexe. Alors la seconde, second geste finalement que je lis dans ce verset, c'est la gratitude. C'est effectivement une modestie lucide que nous propose cette confession de foi. Tout ce qui nous arrive de bien ne vient pas seulement de nos petites forces et de nos petites sagesses. Le geste de gratitude, il va au-delà du bien qui existe dans notre monde et qui nous réjouit. Elle cherche en amont ce qui a bien pu être source de vie dans notre existence. Et je trouve que c'est un excellent geste supplémentaire, c'est une lucidité approfondie. Mais Samuel va encore plus loin que la gratitude. Il fait de sa gratitude un mémorial en dressant un autel pour rendre un culte à Dieu. Et c'est ce que font aussi les oratoriens dans la grande sacristie en choisissant ce verset et puis en le peignant pour les générations sur le plafond. Alors je crois que ce mémorial de gratitude est une idée excellente et en fait très pratique, très concrète. Ce geste permet de conserver en mémoire ce qui a été pour nous une source de bénédiction, une source de supplément de vie dans le passé, de nous en constituer comme une sorte de bibliothèque de principes actifs, positifs, dans notre existence. Et puis d'y reconnaître les traces de Dieu, c'est-à-dire de quelque chose qui dépasse simplement l'humain. Alors ce geste, il semblerait a priori un geste croyant, un geste de foi, mais il n'est pas réservé aux croyants. Toute personne peut chercher en elle-même ce qui l'a aidé à franchir un palier dans son existence, dans la profondeur de son être, dans l'élévation de son existence, identifier des sources de vie, en faire une petite collection, c'est ce que fait le croyant. Et finalement, le mot « l'Éternel » qui est dans ce verset, « Yahvé » en hébreu, ce mot, ça regroupe tout ce qui est principe de vie, source de vie dans notre existence. L'apôtre Paul traduit, en langage courant de son époque, pour les philosophes stoïciens et épicuriens avec qui il discutait, il traduit l'Éternel par « celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être ». C'est Dieu en tant qu'il est secours pour nous, sans jugement ni réserve, pure source de vie, de pardon, d'émancipation, d'élévation. Et donc ce mémorial de gratitude nous permet de placer au cœur de notre vie quotidienne, de notre espérance, de notre réflexion, de notre prière, eh bien ce Dieu-là, pour aujourd'hui et pour les jours suivants. Cette lucidité sur la vie et ce mémorial de gratitude sont un travail au jour le jour, avec une part d'observation, de lecture de notre vie, de notre monde, avec une part de réflexion, bien sûr, pour mouliner notre observation, et puis une part de prière, bien sûr, pour placer ce que nous avons observé face à ce moteur de vie qu'est Dieu. Personne ne peut faire ce travail à la place d'un autre, c'est pourquoi Jésus nous propose de prier dans notre intimité, seul à seul, avec Dieu. Mais il est possible, effectivement, d'éveiller un enfant à acquérir ses gestes. Et ce sera une sacrée chance, une chance sacrée dans sa vie. Il émerge alors dans ce verset un premier fruit de vie. C'est le « nous ». Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Effectivement, c'est comme dans l'enseignement de Jésus sur la prière. Il nous invite à prier en solitaire, cœur à cœur avec Dieu, mais aussitôt dans sa prière, qu'on appelle le Notre Père, eh bien surgit le « nous ». Surgit le fait que c'est notre Père, pas simplement mon petit papounet à moi, mais aussi en réalité, bien sûr. Et je crois qu'effectivement, la lucidité et la gratitude nous ouvrent à un « nous » possible. Quand la masse de nouvelles cauchemardesques nous pousse à nous recroqueviller sur nous-mêmes, sur un sauve-qui-peut personnel, chacun sur son rond-point, en se disant « mes droits, ma vie, mon salut ». Eh bien, quand on est dans la lucidité, dans la gratitude, ça nous ouvre et ça nous permet de faire la part des choses dans notre existence et ça nous enseigne qu'une irruption de quelque chose de transcendant, d'inouï, d'inattendu, peut sans cesse se manifester comme par miracle dans ce monde, dans notre vie. Et c'est la réalité, en fait. C'est ce que nous observons chaque jour, ou presque. Même du mal, Dieu peut faire surgir un plus grand bien. Et cela est mis en récit de mille façons dans notre Bible. C'est ce dont parle, par exemple, l'histoire de Joseph, vendu par ses frères. C'est ce que parle de la résurrection du Christ. C'est ce que parle, dont parle cette histoire de Samuel, à Mitzpah, dont nous faisons bien sûr une lecture spirituelle et non pas une lecture guerrière, évidemment. Le second fruit de cette lucidité et cette gratitude mise en avant par ce verset, c'est, je crois, une théologie plus robuste, plus authentique et plus fidèle. Plus fidèle à celui qui nous donne la vie et qui donne vie au monde. En effet, bien des théories circulent sur l'être et sur l'agir de Dieu. Le Christ, dans son évangile, nous dit que l'Éternel sauve. C'est ce que signifie d'ailleurs le nom même de Jésus, Yeshua, en hébreu, Josué en français, ou Jésus en grec. L'Éternel sauve. Mais on peut entendre ailleurs que Dieu pourrait éprouver certaines personnes pour voir comment ils s'en sortent, ou bien punir, ou bien abandonner ceux qui seraient pas tout à fait à la hauteur au point de vue de la foi ou de la confession de foi. Comment savoir? Qui a raison? Eh bien, ce verset, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, propose de faire une théologie expérimentale. Ce que note Samuel, c'est que dans ce qu'ils ont vécu, dans leur histoire, l'Éternel a été encore et encore une source de vie pour contrecarrer tout ce qui menaçait de les abattre. Dieu n'est donc pas derrière ce qui nous arrive de mauvais, non, il est pure source de vie. Et donc c'est l'expérience qui vient au secours de la controverse théologique, de la théologie spéculative. Alors c'est comme ça que la science progresse. Un certain nombre de modèles existent pour rendre compte de la réalité physique de notre monde. Il appartient aux scientifiques de valider plus ou moins telle ou telle théorie par des expériences. La théorie est ainsi respectée et elle est mise en doute à la fois. Non pour détruire la théorie, les modèles, mais au contraire pour les affiner, pour les rendre plus fidèles à la réalité et rendre mieux compte ainsi de cette réalité et nous aider à vivre. C'est la même chose en théologie. C'est pourquoi la confession de foi de Samuel est ici à la fois affirmative et modeste. L'hypothèse d'un Dieu qui fait des miracles de vie dans notre existence, elle est bien une théologie qui est validée par l'expérience de Samuel et par l'expérience de bien d'entre nous, bien sûr. Seulement, par principe, Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut en dire, de ce qu'on peut en penser. Et donc, il est bon de le respecter, de respecter cette différence entre nos théologies, aussi affinées soient-elles, et la réalité de l'idée de ce qu'est Dieu lui-même, en tant que, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Et comme ça, d'éviter de tomber dans une sorte d'idolâtrie dogmatique. Notre théologie se nourrit de ce que nous entendons sur Dieu, dans la Bible du haut de cette chaire, dans nos discussions, dans 1000 livres et débats que nous pouvons avoir, et c'est formidable. Mais nous mettons ensuite personnellement notre théologie à l'épreuve de notre expérience de vie, au jour le jour, et je pense que c'est comme cela qu'il faut avancer. Une théologie à la fois théorique et expérimentale. Alors évidemment, ça demande du courage de se remettre sans cesse en question, nous, notre théologie, nos modèles, ce que nous avons toujours pensé comme étant « the vérité », avec un grand Z, dans le domaine si profond qu'est la foi, qu'est l'éthique. C'est un courage qui n'est pas forcément évident. Ce courage nous vient du fait que nous avons appris du Christ et que nous avons expérimenté nous-mêmes dans l'humanité que l'Éternel nous est effectivement favorable, sans condition et pour toujours. Mais reste encore une étape au-delà de ce verset finalement, au-delà de notre expérience de Dieu venant à notre secours. C'est le Christ qui nous y ouvre. C'est le don de l'Esprit que nous fêtons à Pentecôte en ce moment. Alors l'Évangile selon saint Jean l'appelle Paraclet, le consolateur, le défenseur. C'est un principe actif de résilience qui est à recevoir pas simplement comme venant de l'extérieur pour nous aider, mais qui est en nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Un principe actif. Alors le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, dit Jésus. C'est un des grands handicaps de notre époque, je pense, même si c'était encore pire du temps de Jésus, certainement, la méconnaissance de Dieu, aussi bien théorique que pratique. Un manque de théologie, un manque d'introspection, un manque de prière, un manque de partage entre les générations pour bénéficier de ce qu'ont découvert les générations passées. Mais vous, nous dit Jésus, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Alors comment le connaissons-nous, ce paraclet? Alors par le témoignage du Christ, même si nous n'avons jamais senti l'aide de Dieu dans notre existence, ce qui est une expérience quand même, j'allais dire, partagée par peut-être 50% d'entre vous. Donc en même temps, ce n'est pas obligatoire, en même temps, ce n'est pas quelque chose de rare ni réservé à des illuminés improbables. Mais nous pouvons en tout cas repartir de cela, du Christ. Nous pouvons repartir du témoignage de notre grand-mère, d'un conjoint, d'un ami. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes paroles. Ses paroles et sa vie parlante ont été un signe de ce Dieu qui marche avec nous comme pure source de vie, de pardon, de relèvement, de résurrection. Cela nous invite à la lucidité et à discerner avec modestie les traces de l'action de ce Dieu dans notre existence. Les traces d'une puissance de vie qui nous dépasse dans tant de belles choses, dans ce monde, dans l'univers avec le télescope Webb qui a été planté à mi-chemin du soleil, à travers ce que nous pouvons vivre les uns avec les autres ou dans la foi. Oui, nous pouvons dire alors, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et nous pouvons alors commencer à nous préparer à ce saut que nous propose le Christ. Discerner que cette puissance de salut, elle n'est pas simplement à contempler autour de nous ou dans notre histoire, mais qu'elle est à recevoir en nous. C'est plus seulement une attente de la bonne providence de Dieu, même si ça nous est arrivé, bien plus que nous ne l'osons l'affirmer. C'est une sorte de puissance d'auto-guérison de notre être. Cette auto-guérison, ce n'est pas quelque chose de complètement abstrait, bien entendu, là aussi. C'est une expérience très concrète. Si on s'égratigne, bon, je ne dis pas se couper un doigt, si on s'égratigne la pulpe du doigt, ça va se guérir tout seul. Et il y a même nos empreintes digitales personnelles qui vont se reconstruire peu à peu. Et notre téléphone, si on a une vieille génération de téléphone, va s'ouvrir avec notre doigt encore. Le paraclet, c'est quelque chose comme cela, comme cette puissance d'auto-guérison, de croissance, mais pas à l'échelle de la surface de notre corps, à l'échelle de notre être tout entier, y compris les dimensions les plus profondes que sont notre personnalité, notre morale, notre foi. Avec cet esprit, il n'y a plus de « jusqu'ici », c'est du « pour toujours ». Pas un « pour toujours » théorique. Bien des personnes que j'ai rencontrées, que vous pourriez interroger, ont partagé cette expérience en particulier dans des époques qui sont infiniment plus dures que l'époque à laquelle nous vivons et dans des épreuves de vie qui malheureusement ont été vraiment épouvantables, elles peuvent témoigner que l'Éternel, effectivement, est plus fort que tout dans notre existence. Mais déjà, nous avons quelques gouttes de cet esprit en nous, au plus profond de notre âme. Le découvrir nous permet de mieux l'activer dans notre être et de pouvoir commencer à prier pour que l'esprit augmente en nous. Amen. Donc un grand merci pour ce « Bis du bei mir » de Jean-Sébastien Bach. D'abord, c'est magnifique, mais en plus, je viens de vérifier, « Bis du bei mir » en allemand, ça veut dire « si tu es avec moi ». Et donc, ça va tout à fait bien avec ce verset de la Grande Sacristie, de voilà, construire avec vraiment cette beauté, cette louange de construire une confiance dans notre vie. Et je vous propose, pour prolonger cette méditation, de prendre le cantique 297. Ô Dieu des grâces éternelles, le temps est proche où ton amour fera toute chose nouvelle dans notre existence. 297, les strophes 1, 2 et 4, les deux premières et la dernière. La foi doit se changer.
Voilà, on va, merci beaucoup Marc. On va partager ensemble un temps d'annonce. Notre présidente Aurore va venir au micro. Merci Aurore. Voilà, pour partager quelques annonces.
Merci à toi Béatrice. Merci Marc. Vraiment, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais nous sommes vraiment très très émus de vous avoir. On n'avait pas réussi à vous avoir lors de l'inauguration de la Grande Sacristie qui était début janvier, mais ça aurait été d'ailleurs absolument génial de vous entendre commenter ce verset, mais vous allez pouvoir tous l'admirer pour ceux qui n'avaient pas encore vu la Grande Sacristie restaurée, et le nom de Marc Pernaut aussi sur nos murs, et ça nous touche vraiment beaucoup. Je crois que vous n'avez pas cité la chanteuse auprès de... Vous l'avez remerciée, mais vous ne l'avez pas citée. Et donc, je remercie Nathalie, au nom du Conseil presbytéral, Nathalie Cévalos-Morales, qui est donc... Merci, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Et donc, vous pouvez applaudir Sarah Kim aussi, hein. Donc Sarah, vous savez, fait beaucoup de concerts à l'international. Et du coup, c'est formidable parce qu'elle nous ramène plein de copines et de copains comme ça. Et puis elle nous écrit toujours d'un air très gêné. Est-ce que mon ami peut venir dimanche? Et alors, elle est toujours ravie parce qu'on lui répond oui. Voilà, j'espère que si un jour on te répond non, tu pars en courant. Hein. Quelques annonces. Dimanche prochain, vraiment, soyez très très nombreux, c'est la fête des enfants. Et vous savez qu'on a une équipe de moniteurs et de monitrices d'éducation biblique absolument fabuleuse avec Béatrice. Et ça va être, on avait toute l'équipe hier en train de préparer les décors, etc. Ça va être encore époustouflant. Donc venez nombreux la semaine prochaine, dimanche prochain, pour être autour des enfants. Puis il y aura un pique-nique après en famille. Donc c'est plutôt très chouette pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et j'espère que vous aurez beau temps. Également, mercredi, les jeunes, s'ils ont beau temps, sont aux Tuileries, le groupe des jeunes, sur le thème du voyage. Hein. Donc le rendez-vous est aux Tuileries, vous trouverez tous les renseignements sur notre site internet. Également, un petit mot, hier, nous avons, pour ceux qui ne sont pas au courant, inauguré la place Paul et Marcel Vergara, qui est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, ce qui avait commencé d'ailleurs Marc Pernaut en 2016 en recevant la plaque Maison de Vie, rue de l'Oratoire. Et comme je l'expliquais hier au discours, avant-hier, Paul et Marcel Vergara, c'est en regardant cette plaque sur ce mur dégueulasse, qui est le mur de la rue de l'Oratoire, qu'on s'est posé la question du ravalement de la façade, mais surtout de comment mieux raconter cette histoire fabuleuse de sauvetage de 63 enfants juifs par, à l'appel de Suzanne Spack, par Paul et Marcel Vergara, Marcel Guillemot, et puis une trentaine de paroissiens dont... il faut le savoir aussi, parce qu'ils ne le disent jamais, ils ne veulent jamais en parler, mais il y avait aussi la famille Pernaut qui sauvait des enfants juifs pendant la guerre. Et c'est important de le savoir, et qu'il y a plein d'héros du quotidien qui n'étaient pas justes et qui ne seront pas justes parmi les nations, mais qui ont été conçus, passer à un évangile, comme disait Vergara, il y a des moments où la version atténuée de l'évangile, c'est bien, mais, c'est bien de jouer de la flûte, mais quand il faut rentrer dans le combat... ben, il faut répondre, il faut jouer du clairon, enfin pas jouer du clairon, il faut répondre à l'appel du clairon. Voilà. Juste, excusez-moi pour ces quelques mots, mais c'est quand même important à rappeler. Et mardi, soyez nombreux, s'il vous plaît, parce qu'il y a l'inauguration de l'école Marcel Guillemot, qui malheureusement a donné fin à sa vie, assez rapidement, d'ailleurs après la guerre. Et elle n'a pas de famille, donc il n'y aura pas de famille pour la représenter. Donc ça serait bien que la famille de l'oratoire soit mardi à l'inauguration de l'école Marcel Guillemot. Et là aussi, les enfants ont fait un travail de mémoire fabuleux. Ils sont venus ici, ils ont rencontré Béatrice. Donc venez mardi à l'inauguration, à la renomination de l'école Marcel Guillemot. S'il vous plaît, tous nos détails sont sur le site. Juste après ce culte, vous restez, on va rapprocher les chaises près de l'écran. Je vous promets qu'on va essayer de faire une assemblée générale extrêmement rapide, bon, en répondant à toutes vos questions, si vous le désirez, bien entendu. Mais l'objectif, moi je m'étais promis, parce que je pars là, et il y a un truc que je n'ai pas fait, c'est que je voulais qu'on fasse une grande soirée à Pérol. Parce que comme tu l'as dit, on s'appelle à Pérol. La Pérol est devenue quand même assez chouette. Je me suis dit, un jour on va appeler la Pérol. Et puis, on va leur demander de sponsoriser une soirée, après tout. Bon, je ne l'ai pas encore fait. Je vous promets que je le ferai peut-être avec la Fondation de l'Oratoire. Voilà, on va y arriver. Mais juste après, du coup, comme en plus, on a quelques Italiens dans l'équipe. Et puis, on a Agnès Adeline Schaeffer qui nous rejoint. Et ceux qui étaient là l'année dernière, il y a un an, vous savez qu'on lui a offert un superbe voyage à Venise. Donc, on n'a pas de Select, mais on a de l'apérole qui se sert aussi à Venise. Et donc là, on va se faire un petit apéritif sympa après l'AG. Donc restez pour l'AG. Bon, vous nous réécouterez encore un peu, je suis désolée. Mais après, on se prendra un verre avec Agnès, avec Marc, avec l'épouse de Marc qui est là également. Ça nous touche beaucoup. Béatrice, Jean-Pierre Clairaut. Richard ne sera pas là, l'amoureux de Venise. Mais Agnès est là. Voilà. Voilà pour les annonces. Merci à tous. Nous lançons l'offrande. Nous avons le don joyeux. Hein, je le rappelle, y compris en carte bleue.
Alors avant le pot, au cas où certains auraient à s'absenter après le culte et après l'AG, je voudrais faire venir Jean-Luc auprès d'Aurore, parce que ce sont deux conseillers presbytéraux qui ont servi avec passion, on peut le dire, cette église et qui, lors de cette assemblée générale, vont voler vers d'autres horizons pour aller servir d'autres causes très justes, elles aussi. Et je voudrais que toute cette assemblée nombreuse et réunie aujourd'hui, maintenant, puisse les remercier pour leur service. Merci. Voilà, je voulais vraiment dire cela et c'est pour ça aussi qu'il faut rester à ce pot après l'Assemblée Générale pour pouvoir vraiment vous-même venir les saluer et leur dire votre reconnaissance pour tout ce qui a été accompli dans cette Église ces dernières années grâce à leur mandat. Merci à vous. C'est maintenant le moment de l'offrande et Sarah, si tu veux bien.
Nous nous unissons du cœur avec cette prière pour tous de Siméon, le nouveau théologien, vers l'an 1000, puis dans le Notre Père. Viens, lumière véritable, viens, vie éternelle, viens, mystère caché, trésor sans nom, viens, réalité ineffable, bonheur sans fin, viens, lumière sans couchant, viens, résurrection des morts, viens, toi qui viens à nous, qui sommes couchés dans les enfers, viens, toi qui es au-dessus des cieux, viens, joie éternelle. Viens, toi qui as désiré et qui désire encore notre âme misérable. Viens, toi, notre souffle et notre vie à tous. Viens, notre joie, notre gloire, nos délices. Viens, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu, bénédiction qui est donnée en fait comme une constatation et au singulier par Moïse dans le livre des Nombres. L'Éternel te bénit et te garde, toi. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Tu sauves, ô Éternel, l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu, mon Dieu. Amen.
Voilà, nous allons mettre maintenant en place les choses pour l'Assemblée générale. Vous avez le temps, évidemment, de dire bonjour à Marc et de le saluer pendant qu'il est là avec nous. Merci à vous toutes et tous et restez nombreux pour cette Assemblée et le pot qui est offert ensuite. Merci.